Fréquencier vous propose une émission dans le cadre du 150e anniversaire du camp de Conwy. Janvier 2021, il y a 150 ans exactement, il se passait un certain nombre d'événements douloureux dans notre région de Ciel-Guillaume et Conwy, et plus particulièrement Conwy. C'était la période 71, et ben ça parle commune de Paris, donc ça parle un peu fin d'une guerre, celle de 70, une guerre qui est sans aucun doute beaucoup moins bien connue que la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, ces deux guerres sont plus proches de nous, ces deux guerres ont été des guerres mondiales, ces deux guerres ont été marquées par des nombres de victimes absolument insupportables. Et on peut dire que la guerre de 70 est peut-être la dernière des guerres, finalement, comme les guerres de l'Ancien Régime. Et une guerre qui oppose deux pays, qui sont en fait la France et, de l'autre côté, la Prusse. Alors, on va se dire, qu'est-ce que ça vient faire là, Ciel-Guillaume, dans un conflit, en fait, entre deux États, qui sont finalement la France et la Prusse, qui devraient s'opposer, en normalement, on va dire, en gros, aller entre Paris et l'Allemagne, quoi. Mais non, pas du tout. Il y a des choses qui se passent chez nous. Et pour nous raconter cette histoire et mieux comprendre cette histoire, c'est Vincent Lucas de l'association Ciel et Patrimoine qui va nous apporter un certain nombre d'éléments. Un mot rapide d'abord, Ciel et Patrimoine, c'est quoi ?
Bonjour à tous. Ciel et Patrimoine, donc c'est une association qui a été créée il y a plus de 5 ans maintenant, qui a pour but de valoriser le patrimoine sur la commune de Ciel et aux environs, donc aussi bien le patrimoine bâti que le patrimoine immatériel.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi il y a eu cette guerre en 1870 ?
Alors, comme vous le disiez, c'est une guerre qui a été oubliée, qui aujourd'hui n'est plus enseignée. Alors, faut savoir que avant 1870, la Prusse et la France ne sont pas ennemis. Ce qui va commencer à mettre des étincelles, c'est l'Espagne en 1868 avec le départ de la reine, et les Prussiens veulent mettre quelqu'un proche de leur empire à la tête de l'Espagne. Évidemment, la France ne veut pas et veut plutôt quelqu'un pro-français ou plutôt neutre. Et donc pendant 2 ans, par diplomatie interposée, les deux pays vont se fricoter un petit peu, mais en tout cas, on n'arrive pas quand même à une guerre qui éclate en 1870. Ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est une dépêche.
Alors la fameuse dépêche d'Ems, c'est quoi cette dépêche ?
Alors la fameuse dépêche d'Ems, c'est moi quand j'avais fait des visites sur Ciel, j'avais traduit ça en fait en première fake news de l'histoire. Quand Guillaume Ier reçoit la dépêche française donc à Ems, qui est une station balnéaire dans l'ouest de l'Allemagne.
Ceux qui font des mots croisés ont retrouvé le mot.
Oui. Le texte, enfin Napoléon III demande 2 choses à Guillaume Ier, notamment toujours sur l'histoire de l'Espagne. Guillaume Ier accepte une première condition de l'empereur, mais n'accepte pas la deuxième, qui est, si j'ai bonne mémoire, que plus jamais la Prusse ne veuille nommer quelqu'un pro-prussien à la tête de l'Espagne, sauf chose que Guillaume Ier ne peut pas garantir. Donc la dépêche revient ensuite à Berlin, donc c'est important parce qu'en fait, à cette période-là, Bismarck est tout seul à Berlin et sans l'empereur, donc il peut faire un peu ce qu'il veut. Et donc lui, il est furieux parce que lui, ce qu'il veut, c'est absolument une guerre, puisqu'il faut bien comprendre qu'on ne parle pas d'Allemagne à l'époque, on parle de la Prusse. Le pays est morcelé entre plusieurs petits empires, plusieurs petits royaumes. Et donc ce que veut Bismarck, c'est unifier l'Allemagne. Et donc pour unifier un pays, vous avez 2 solutions. Soit vous gagnez une Coupe du Monde et tout le monde est content, soit vous déclenchez la guerre, puisque vous déclenchez un sentiment patriotique et du coup, tout le monde se regroupe. Et ce que fera Bismarck, donc, c'est qu'il va trafiquer la dépêche d'Ems pour la rendre beaucoup plus offensive. Il la fera publier dans les journaux allemands. La nouvelle tombera sur Paris et du coup, ça va monter très vite. En l'espace de quelques jours, en juillet 1870, la guerre est déclarée entre la France et la Prusse.
Avec une précision, c'est la France qui déclare la guerre.
C'est la France qui déclare la guerre à la Prusse. Effectivement, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, les Français comme souvent dans certaines guerres, on s'est vu plus beau qu'on n'était. Sauf que Bismarck lui était prêt. Il avait déjà une armée qui est opérationnelle, qui avait gagné déjà plusieurs conflits face aux Autrichiens. Et quand la guerre éclate, l'armée française à l'époque doit compter à peu près 330 000 hommes. L'armée prussienne 550 000. Mais c'est surtout qu'il y a 500 000 hommes qui sont déjà positionnés à la frontière avec la France, alors que nous on en a que 250 000.
Alors, on peut quand même rappeler qu'il y a un paradoxe, c'est que l'empereur avait soutenu, Napoléon III, avait soutenu l'unification de l'Italie, mais il ne veut pas entendre parler d'unification de l'Allemagne. Alors pourquoi ?
Parce qu'il considère que l'Allemagne, c'est un ogre, alors que l'Italie, il n'y a jamais vraiment eu d'animosité entre les deux pays, mais la Prusse monte vraiment de plus en plus en puissance, et Napoléon III veut quand même garder une sorte d'hégémonie à l'échelle européenne. Et donc il ne veut surtout pas qu'il y ait un autre pays qui arrive à se structurer, et notamment la Prusse, qui au niveau économique est déjà bien développée, au niveau ferroviaire est largement supérieure au nôtre, et en termes de démographie aussi, puisque l'objectif de Bismarck, c'est de réunifier tous ceux qui parlent allemand. Chose qu'on verra plus tard d'ailleurs dans l'histoire.
Exactement, oui. Donc ce que ne veut pas Napoléon III, c'est en fait avoir au nord et à l'est un empire allemand, et avoir au sud une Espagne liée à cet empire allemand, et c'est ça qui déclenche la guerre, c'est bien ça.
Exactement, c'est ce fait que le pays soit pris en tenaille en fait entre l'Espagne et l'Allemagne.
Bon, enfin, Napoléon, c'est Napoléon, comme disait, c'est Victor Hugo, je crois, qui disait Napoléon le petit. Donc, il n'a pas, évidemment, l'envergure du Napoléon du début du 19e siècle.
C'est pas le premier.
C'est pas le meilleur en termes de stratégie militaire. Et alors ça se passe comment, ce début de guerre? C'est une catastrophe.
C'est la débâcle, en fait, parce que, comme je disais, Bismarck, lui, voulait la guerre. Donc, tout était prêt. Les plans pour attaquer la France étaient déjà prêts depuis bien longtemps. Nous, on n'était absolument pas prêts. Donc du coup, quand les Prussiens, bien mieux équipés, bien mieux entraînés que nous, ils commencent à rentrer assez vite en France, tellement vite que finalement, comme je disais, le conflit éclate le 19 juillet et le 2 septembre. L'empereur est fait prisonnier à Sedan.
Il n'y a donc plus de chef d'État.
Il n'y a plus de chef d'État, et donc là, effectivement, il y a vacance du pouvoir. Et donc, qu'est-ce qui peut arriver? Soit le retour de la monarchie, soit le retour de la République. C'est finalement la République qui reviendra, proclamée par Gambetta, qui va organiser donc une défense nationale pour essayer de repousser les Prussiens le plus loin possible. Sauf que, en fait, ça continue. Les Prussiens arrivent à Paris, ils vont prendre Paris. Le gouvernement français sera obligé de déménager une première fois à Tours, mais comme les Prussiens ne s'arrêtent pas à Paris, ils continuent de descendre le long de la Loire, ils prennent Orléans, etc. Le gouvernement de Gambetta sera obligé de s'exiler jusqu'à Bordeaux.
Alors c'est la fameuse image qu'on a tous vue dans les classes, l'image d'Épinal avec ce départ en ballon de Gambetta, Gambetta que la Troisième République a finalement traduit comme un héros.
Oui. Alors effectivement, c'est un héros puisqu'il ramène la République. Alors chacun a son opinion politique, peu importe, mais en tout cas, il ramène la République en France. Pour ce qui est du camp de Conly,
on en parlera tout à l'heure.
On sera un peu plus mitigé, voilà. Mais effectivement, Gambetta à l'époque, c'est le héros. Il ramène la République. Il essaie de défendre le pays, tant bien que mal. De toute façon, il n'y arrivera pas puisque on est sur le reculoir. On n'a pas les hommes suffisants. Après, effectivement, pourquoi s'y est? Parce qu'en fait, les Prussiens vont continuer leur logique de continuer donc le long de la vallée du Loire et de la Loire, pardon, et donc de continuer leur chemin vers Tours, Vendôme, Le Mans et ainsi de suite.
Et donc là, il y a deux solutions. C'est un peu le même choix qu'en 40. Soit on réunit une armée et on résiste, ou alors, on demande la paix avec les conditions un peu dures. Finalement, Gambetta, alors il n'est pas le seul, Gambetta, il y a des noms importants à cette époque-là, on peut penser à Adolphe Thiers, peut-être d'autres, mais on en parlera peut-être à un autre moment. Ils choisissent quoi finalement comme stratégie?
Alors Thiers, on peut en parler. Lui, en fait, il était contre la déclaration de guerre. à l'Assemblée, sauf qu'il a été mis en minorité parce que les nationalistes derrière, enfin l'extrême droite française, voulaient absolument cette guerre contre la Prusse. Donc du coup, effectivement, Thiers, lui, au départ, n'est pas favorable à la guerre parce qu'il sent bien qu'on n'est pas prêt à déclarer une guerre contre la Prusse. Ce qui va faire aussi que les Prussiens vont continuer à partir vers l'ouest, c'est la montée de l'armée, qu'on appelle l'armée de la Loire, qui a pour objectif de se reconstituer pour ensuite organiser donc d'abord une première ligne de résistance, puis ensuite une ligne de contre-attaque pour essayer de reprendre Paris. L'objectif de Gambetta, c'est ça, avec l'armée de la Loire, c'est de reprendre Paris.
Ça paraît délirant. Clairement, la façon dont l'armée française avait été défaite depuis le début de la guerre, comment est-ce que Gambetta et l'état-major français pouvaient penser résister, retourner la guerre alors que vraiment l'armée française avait monté toute son appareil ici?
C'était quasiment une mission impossible. Quand on est en phase de recul, c'est comme dans le sport, quand on recule, à un moment donné, on finit par céder. Et donc, effectivement, une fois Paris pris, l'armistice aurait pu être demandé, sauf que la République venait juste d'arriver, et Gambetta, je pense, voulant un peu quand même asseoir son pouvoir sur l'État français, ne pouvait pas tout de suite arriver, dire « bah non, c'est fini, on s'est plié », il aurait été accusé de faiblesse. Donc il a voulu quand même tenter quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le considère comme un héros, parce qu'il a pas cédé tout de suite, il a voulu tenter de repousser l'ennemi, chose qui était pas possible, parce que quand vous commencez à engendrer des victoires, le moral est bon. Quand vous engrangez des défaites, le moral est pas bon. Et donc du coup, les troupes françaises étaient pas bonnes, très mal organisées. En plus, avec des généraux qui changent, l'armée de la Loire, ça a changé. Ensuite, c'est revenu dans les mains de Chanzy, qui lui, par contre, a fait des choses intéressantes. Mais avec une armée qui était mélangée de professionnels et de mobilisés, qui était une armée de paysans. Voilà.
Alors on va bien sûr en arriver dans quelques instants à parler de Conly, hein, du camp de Conly et des batailles, parce que on va l'apprendre, il y a eu des batailles aussi du côté de Sillé. Avant ça, je voudrais juste vraiment cadrer quand même un élément au niveau de l'ordre du temps. Ceux qui pensent 1871 Commune de Paris, attention, la Commune de Paris ne naît que après les événements dont on va parler. Hein. La Commune de Paris, c'est plutôt mars et mai 1871. Là, on va plutôt se situer dans une période qui se situe entre novembre 1870 et puis février, on va dire en gros 1871. Donc attention, ne confondez pas. Hein, tout à l'heure, on en évoquait Thiers. C'est plus tard que Thiers sera celui qui va faire couler le sang dans les rues de Paris contre les communards. En attendant, ce que je vous propose, Vincent Lucas, vous qui représentez ici l'association SIE et Patrimoine, c'est de faire une petite pause musicale et on va partir avec Red Cardel, un Breton, bien sûr, qui a une chanson qui s'appelle Conly.
L'ergot de la mort dans le blé de Conly. Of the life, you shadows. Back to the front line. And the tears of the race. And the death in the rack. Looking for the one.
C'était donc Red Cardell qui évoquait dans cette chanson Conly. Conly, justement, allez, on y est. On a parlé de l'armée de la Loire et avec Vincent Lucas, on va évoquer maintenant le camp de Conly. On est en novembre 1870. L'idée, c'est de grouper des soldats à cet endroit. Mais alors, une question, pourquoi à cet endroit ?
Alors, il faut raisonner par rapport aux axes de communication de l'époque et notamment par rapport au train. Et donc, il se trouve que Conly, d'ailleurs, tout comme Sillé, se trouve sur la ligne Paris-Brest, donc qui passe par le Mans, qui est une ligne qui existait déjà depuis quasiment 20 ans, puisque le train avait été inauguré en arrivant à Sillé en 1855. Donc, on était sur une très grande ligne. Alors après, on peut se poser la question, pourquoi plus Conly que Sillé ? C'est pour des questions topographiques, parce que donc dans les deux cas, il y a une proximité avec la gare, mais c'est surtout que l'emplacement qui a été choisi, donc au nord de la commune quand on va vers Sillé, est dans une plaine, et il y a deux buttes à proximité, donc ce qu'on appelle la butte de la Jaunelière, qui ont été fortifiées, donc avec des talus qui ont été installés pour pouvoir y positionner de l'artillerie. C'est pour ça que Conly a été choisi aux dépens de Sillé, puisque depuis Sillé, en fait, quand on est en ville, hein, ceux qui habitent Sillé le savent bien, on n'a pas de vue sur ce qui arrive au loin. On voit tout de suite qui sort, mais c'est déjà trop près, donc c'était pas possible d'installer un camp sur Sillé pour des questions topographiques, et c'est pour ça que Conly a été choisi. Petit problème, c'est que on est au mois de novembre, que les conditions climatiques de l'automne sont dantesques, et ça n'a absolument rien à voir avec le climat qu'on connaît aujourd'hui, et qu'en plus sur Conly, on est sur une plaine argileuse, et donc l'eau et l'argile, c'est juste insupportable pour les premiers mobilisés bretons qui vont arriver.
Alors, l'endroit exact, alors c'est une espèce de plateau. Enfin, c'est pas vraiment en bas à Conly, parce que on a une image, sans doute allemande, prussienne, qui montre Conly, le camp avec les baraquements autour d'une église et qui est intitulé donc le camp de Conly. Ça ressemble plutôt à Monument de Valley que à Conly. C'est quoi cette image?
cette image là, elle est assez, on peut en rigoler aujourd'hui effectivement. Alors c'est une image qui est prussienne. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est prussien? Parce qu'il suffit de, alors c'est un document que j'ai en ma possession, hein. Il suffit de regarder les quatre soldats qui sont au premier plan. Alors c'est la photo que vous évoquez, c'est celle qui fait la une des Alpes Mancelles parue vendredi 15 janvier, où en fait on voit au premier plan donc quatre soldats. Si on zoome un petit peu dessus avec une loupe ou si on a de bons yeux, on voit que ces soldats, ils ont une petite pointe sur le casque. Donc les casques à pointe, c'est bien des soldats prussiens. Et on voit en plus le camp qui est en feu avec du matériel ici et là. Mais effectivement, les paysages autour sont complètement erronés. On a l'impression d'être dans un Far West. Et en plus, le camp de Conly est placé complètement en ville au pied de l'église qui a l'air d'être en feu avec des baraquements. Donc pas du tout. Il y a vraiment une erreur de localisation du camp et une erreur dans les baraquements puisqu'on est sur des tentes. Mais voilà, c'est un document prussien qui a sans doute servi un petit peu de propagande aussi pour montrer comment ça avançait, de montrer que l'armée avait pris des endroits très escarpés, très compliqués à prendre. Voilà, c'est...
Et des vrais camps bien structurés.
Et des vrais camps bien structurés, ce qui était absolument pas le cas du camp de Conly qui était, qui n'avait rien en dur.
Bon, alors ils sont sur la hauteur là à la Jonelière. Quand on est sur la route qui va de Conly vers Ciel-Guillaume, le camp est plutôt du côté gauche, hein, c'est bien ça, par rapport au monument actuel.
Alors si on arrive de Sillé, donc on arrive au sommet de la butte de la Jonelière, donc là effectivement on a une vue sur Conly, donc ce qu'on appelle la redoute, donc est l'emplacement fortifié du camp, donc se situe de part et d'autre de la route actuelle, donc à gauche et à droite, donc aussi bien côté gauche du monument que côté droit du monument. Et ensuite, le camp, lui, va plutôt s'organiser, pareil, des deux côtés de la route, qui mène à Conly, donc aussi bien à droite qu'à gauche. Mais les troupes, elles, vont être dans la plaine. C'est le quartier général qui sera installé c'est le commandement général du camp qui sera installé sur la butte.
Donc une occupation en termes de surface qui est super importante. C'est 50 000 soldats qui sont censés être accueillis là.
Alors le camp est prévu pour accueillir 50 000 soldats. Dès qu'il ouvre au mois de novembre, c'est 30 000 Bretons qui arrivent. Donc faut quand même rappeler les choses. On est en 1870. Les Bretons parlent breton. Ils ne parlent pas français. Et les Bretons entre eux ne se comprennent pas. C'est comme en Sarthe, le patois de Ciel-Guillaume n'est pas le patois de Château-du-Loir. Voilà, donc on se comprend pas forcément quand on parle. Les terminologies sont pas les mêmes.
Oui, selon qu'on est du pays Bigoudin ou du pays Gallo, on parle pas la même langue.
Ouais. Exactement. Un Malouin va pas forcément se comprendre avec un Brestois ou quelqu'un de Quimper. Voilà, donc ça c'est important. C'est pour ça d'ailleurs que les Bretons sont installés non pas par unité, mais ils sont installés par département. Les Morbihanais avec les Morbihanais, les Côtes du Nord avec Côtes du Nord, et ainsi de suite. Et ensuite, ils seront groupés par arrondissement et par canton, de façon à ce qu'ils puissent se comprendre entre eux. Donc l'organisation du camp, elle est, pour le coup, plutôt bien faite. Après, ce qui sera compliqué, c'est les relations entre le général de Kératri, donc en charge de l'installation du camp, et Léon Gambetta.
C'est un Breton aussi, hein, Kératri.
C'est un Breton, républicain, mais pas du même bord politique que Gambetta. Voilà. C'est sans doute le début des problèmes.
Alors, avant d'évoquer justement Gambetta, quelles sont les conditions de vie de ces Bretons? Il n'y a pas que des Bretons d'ailleurs, mais essentiellement des Bretons quand même.
Il y a essentiellement des Bretons. Les conditions de vie, elles sont lamentables. On emmène là des humains dans un lieu qui est purement scandaleux, c'est-à-dire que, comme je disais, le camp, il n'y a aucune infrastructure, les baraquements qui devaient être faits en bois n'ont pas vu le jour, les hommes dorment à même la paille, on est à l'automne, début d'hiver, il pleut énormément, je disais tout à l'heure, dans la plaine de Conly, c'est de l'argile, donc le camp se transforme très vite en champ de boue, c'est ce qui lui vaut d'ailleurs son surnom de Kerfank, qui va inspirer la chanson de Trianne d'ailleurs. Et quand vous êtes dans un camp qui est pas équipé, c'est le début des maladies. Il y a certains Bretons qui sont d'ailleurs transférés sur Sillé pour être soignés. On a même des Bretons qui sont une partie des soldats Bretons qui sont transférés en forêt à proximité du lac pour qu'ils puissent être mis là pour être soignés, notamment avec le docteur Touchard, parce qu'il y a très peu de médecins en plus à l'époque. Donc voilà, les conditions ne sont pas dignes de l'État français, de l'armée française.
Alors, on écoutera tout à l'heure la chanson à qui vous faites référence de Trianne, Kerfanck, 1870. Mais j'aimerais juste avant qu'on évoque quand même quelque chose, c'est qu'ils sont pas là uniquement pour être réunis dans un camp. Ils sont là normalement pour faire la guerre. Donc, pour faire la guerre, ils ont besoin d'un minimum de choses. Et c'est là que il y aurait cette espèce de perfidie de Gambetta. Alors, il faut nous expliquer, là.
Alors, oui, effectivement, on demande aux Bretons de venir parce que, comme je disais tout à l'heure, l'armée est sur le reculoir. On a besoin d'hommes parce qu'il y a pas mal de soldats qui sont faits prisonniers. Il y a énormément de morts. Donc, il nous faut des hommes. Comme la Bretagne est encore libre, on essaie de ramener quantité de soldats de cette région. Sauf que effectivement, pour faire la guerre, il faut du matériel. Donc, à plusieurs reprises, Kératry demande à Gambetta des équipements et notamment des armes, et on le sait, c'est écrit, Gambetta refusera d'armer les Bretons. Alors, pourquoi? Peut-être parce qu'il y a un différent politique avec Kératry. Moi, je pense plutôt que les Bretons, étant plutôt catholiques, croyants, ne parlant pas le français, Gambetta assimile un peu les Bretons aux Vendéens et a peur que les Bretons refassent un coup de chouannerie pourquoi pas renverser la République, enfin on ne sait quoi, enfin... En tout cas, voilà, Gambetta refusera de donner les fameux fusils qui étaient pourtant des fusils performants, hein, les fameux fusils chasse-pot, donc avec un chargement par la culasse. Il refusera de donner ces fusils-là aux Bretons pour leur donner des fusils pourris qui venaient de l'autre côté de l'Atlantique pour certains, donc étaient des fusils qu'il fallait charger par le canon. Donc autant dire que face à une armée prussienne structurée avec des mitrailleuses, etc., bah, les pauvres soldats bretons qui devaient partir faire la guerre ne pouvaient pas s'en sortir. En plus à ça, vous ajoutez le fait que, comme je disais tout à l'heure, il y avait au moins 30 000 soldats dans le camp et on a 7 000 fusils. Donc déjà, ça pose un sacré problème.
Ça fait pas une armée, oui. Et en plus, ce sera dit dans les chansons qu'on va entendre. Ces fusils sont en tel mauvais état que on dit que au moment où ils veulent tirer avec les fusils, ils leur explosent pratiquement à la tête, quoi.
Oui, en fait, les fusils qui sont donnés, c'est des fusils qui viennent pour certains de la guerre de sécession, donc en Amérique. Il y en a même certains qui viennent carrément de Lafayette, donc fin du 18e.
La guerre d'indépendance.
La guerre d'indépendance des États-Unis. Donc c'est quand même assez dingue. En plus, avec des munitions qui sont pas suffisantes. Il y a très peu de canons. Enfin, voilà. Et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des mobilisés bretons. Donc ce sont pas des soldats. Ils sont pas formés à la guerre. Faut leur apprendre à faire la guerre. Donc apprendre à des Bretons à faire la guerre avec des fusils qui sont pas bons, 7000 fusils pour 30 000 hommes, bah c'est un soldat meurt, tu prends le fusil et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est pas possible d'organiser une défense avec des hommes non armés.
Donc on l'a dit, Gambetta dans un premier temps dit il y aura des armes et puis peu de temps après, juste après, on a les textes, hein, il dit bah il y aura pas d'armes pour les Bretons du camp de Conly. Alors sur la question du royalisme, il faut peut-être se mettre dans le bain de l'époque, la Révolution française, elle n'est pas si loin. C'est 70 ans avant, hein. Tout simplement. Hein. Napoléon Ier, le retour de la royauté en 1815, c'est une cinquantaine d'années avant. Donc il y a encore des gens qui ont ça en tête et on sait qu'aucun régime politique n'est stabilisé, que ce soit la royauté, que ce soit l'Empire, que ce soit la République. Et bien évidemment, cette fragilité peut être sentie et c'est bien possible que dans la tête d'un certain nombre de républicains et peut-être de Gambetta, les souvenirs de la résistance des Vendéens, de la chouannerie, etc., soit un peu là. Il n'empêche que, humainement, ce que fait Gambetta est absolument indigne.
C'est scandaleux. On peut le résumer comme ça. C'est purement scandaleux. C'est presque un mini-scandale d'État, donc qui a été oublié ou volontairement étouffé, enfin peu importe. Mais en tout cas, ce qui s'est passé à Conly n'est pas digne d'un État comme la France, même si on est en phase de défaite et de reculoir. Ce qui s'est passé là est scandaleux. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce sera repris, notamment dans les années 60-70, au moment de... où les tensions entre les indépendantistes bretons et l'État français sont au plus fort. Effectivement, cette histoire-là ressort, notamment dans la chanson de Triane, c'est très net. C'est remis dans son contexte, c'est une chanson révolutionnaire, voilà, pour essayer d'exacerber le patriotisme breton face au vilain français. Voilà, parce qu'il faut bien comprendre que la francisation de la Bretagne s'est faite quand même par l'État français de manière assez violente, où on interdisait aux Bretons de parler breton en classe, et dès qu'il lâchait un mot de breton...
Il était interdit de parler breton et de cracher.
C'est ça.
Les deux étaient au même niveau. Ouais.
Exactement, voilà. Dès qu'un enfant parlait breton en classe, il était puni. Donc ça permettait, voilà, de donner des billes et des arguments encore plus forts aux indépendantistes bretons. Bon, la Bretagne est restée française, et c'est tant mieux pour nous. Ça reste une très belle région. Mais voilà, en tout cas, ce qui s'est passé là, effectivement, n'est pas digne, et tout ça n'est pas très propre.
Général, ma général, général, t'as gardé au guet à Brésil.
Général, ma général, t'as
gardé au guet à Brésil. Général, ma général, t'as gardé au guet à Brésil. Général, ma général, t'as gardé au guet à Brésil. Ma carrière de Marivaux.
Général, ma général, t'as gardé au guet à
Brésil.
Général, ma carrière de
Marivaux. On a mis les avions dorés, tu nous vois d'en haut.
Vive la Prusse et la France.
Mais devant Paris.
Oléon nous en a menti, les Prussiens l'ont pris, Guillaume est devant Paris.
Montrerons le gilet brodé, puis nous va dans l'eau.
Vive la Prusse et la France, Marie-Oleu, on a parlé, on ne voit pas dans l'eau. Avant Guillaume est sorti.
Précinet, tu nous as fait dire, oubliez d'être prudent, vous servez la République.
Précinet, tu nous as fait dire, oubliez d'être prudent, vous servez la République.
Précinet, tu nous as fait dire, oubliez d'être prudent, battez-vous pour la nation.
Voilà, issu de l'album Urba Kerfunk 1870, Triane, on repart sur ce camp de Conly et sur les événements qui se sont déroulés entre novembre et janvier. Alors, novembre 70 et janvier 1871, du côté de Conly et Sillé, nous sommes sur le 150e anniversaire et nous recevons donc Vincent Lucas, qui est le président de Sillé Patrimoine et qui, tout à l'heure, nous disait que justement, cette chanson reflétait bien les conditions absolument indignes dans lesquelles ces Bretons avaient été groupés sur une butte juste au-dessus de Conly. Alors, il y a une phrase en breton qu'on comprend pas forcément très bien, et je crois qu'à l'époque on l'avait pas bien comprise non plus. Est-ce qu'on peut avoir quelques explications là-dessus?
Oui. Alors d'abord, juste revenir sur une petite chose. Pour ceux qui sont intéressés par l'histoire du camp de Conly. Parce qu'on se dit Conly, président de Sillé Patrimoine, pourquoi Sillé Patrimoine et Conly? Bon, d'abord parce que je m'intéresse à l'histoire, mais c'est surtout pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire du camp de Conly. Moi, je les invite à participer quand les événements pourront de nouveau avoir lieu, aux balades en histoire qui sont organisées depuis le musée de la Seconde Guerre mondiale à Conly, parce que ça fait maintenant plusieurs années que des bénévoles font découvrir cette histoire du camp de Conly. Moi, après, j'en parle sur Sillé Patrimoine parce que c'est en lien avec l'histoire locale, mais je suis pas le spécialiste local du camp de Conly. C'est plutôt cette association-là qui maîtrise bien le sujet et qui fait ça depuis de nombreuses années. Ça, c'était la petite parenthèse. Effectivement, le début de la chanson de Triane débute par « Général Darguerre, ma Général Darguerre ». Donc là, il y a une anecdote. Alors, Gambetta ou Marivaux, là, j'ai des doutes sur qui serait venu en novembre 1870 à Conly. En tout cas, un représentant de l'État est venu pour rencontrer ces Bretons. Et donc, ce qu'il a entendu, c'était « Darguerre, Darguerre, Darguerre ». Donc là, forcément, il dit « Mais regardez ces vaillants Bretons qui veulent aller à la guerre ». Eh ben non, pas de chance. Darguerre en breton, ça veut dire « Je veux rentrer à la maison ». Et donc, c'est pour ça que la chanson débute par « Ma Générale Darguerre ». C'est qu'en fait, voilà, je disais tout à l'heure, les Bretons parlant breton, on a cru qu'en fait, ils étaient hyper motivés pour aller combattre, mais pas du tout, compte tenu de l'état du camp et du peu de matériel qu'ils avaient, et ce qu'on retrouve aussi dans la chanson de Triane, des biscuits moisis. Bon, bah voilà, ça fait que entre les fusils pourris, les cartouches rouillées qui pètent au nez, bah ça fait qu'on n'a pas une armée de Bretons hyper mobilisés au sens psychologique du terme. Et donc, ils ont plus envie d'aller à la maison que d'aller à la guerre.
Et pourtant, on va les envoyer, en tout cas pour certains, au combat, en direction du Mans. Là, on est autour du 10-12 janvier 1871. Qu'est-ce qui se passe en quelques mots autour du Mans?
Alors là encore, c'est pareil. Ces pauvres Bretons, on a encore voulu les salir au niveau de la mémoire. Ils vont combattre au niveau du camp d'Auvour. Donc là, on est sur la route qui va vers La Ferté-Bernard. Il y a un monument d'ailleurs à voir, un gros monument à voir au niveau du camp d'Auvour. Et puis il y aura des combats donc au sud du Mans, sur le secteur de Pontlieu, parce qu'il faut bien comprendre que on est en 1870-71. Le Mans n'a pas la taille d'aujourd'hui, hein. Pontlieu, on est encore en rase campagne. Voilà, d'ailleurs, Pontlieu ne fait pas partie du Mans, c'est une commune indépendante. Donc voilà, le Mans est une ville toute petite qui fait, si j'ai bonne mémoire, 25 ou 30 000 habitants. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc effectivement, les Bretons seront envoyés combattre donc sur ces deux fronts-là. Une partie au camp d'Auvour et une partie... donc au niveau de Pontlieu. Donc là, ils sont intégrés à l'armée de la Loire, donc sous le grand commandement du général Chanzy. Ils vont très bien se comporter avec le reste de l'armée à Auvour, réussissant même à repousser les Prussiens. Par contre, à Pontlieu, ce sera totalement différent. Ils seront mis en déroute. Et donc, en fait, ils seront accusés de cette défaite sur Pontlieu en disant « Bah oui, il y avait des Bretons, mais de toute façon, dès qu'ils ont vu l'ennemi arriver, ils sont repartis en courant et en arrière, ils ont déserté. » Ce qui n'est pas vrai. Ils ont combattu vaillamment, mais malheureusement, sur Pontlieu, ça s'est bien moins bien passé que sur le camp d'Auvour.
Donc, battus sur le Mans, donc on suppose que les Prussiens vont continuer à avancer vers l'ouest, hein, et là, on va aller vers Conly et Ciel-Guillaume. Alors, qu'est-ce qui se passe, donc, entre le 13 et le 15-16 janvier 1871 dans ce secteur?
Alors, d'abord, pour les auditeurs, pour ceux qui sont... moi, je suis pas le spécialiste de ce qui s'est passé au Mans. Moi, je m'intéresse sur ce qui se passe sur Conly. Si les auditeurs veulent en savoir un peu plus sur la bataille du Mans, moi, je les invite à se procurer le livre de Monsieur Beauchef.
Frédéric Beauchef.
Voilà, Frédéric Beauchef, sur la bataille du Mans 1870, qui est un livre qui est très bien fait, bien documenté et qui est assez facile à lire, même si on n'est pas un pur historien. Donc, c'est vraiment un ouvrage intéressant à se procurer.
Et qui vient d'être réédité.
Je crois qu'il a été réédité. Donc, effectivement, l'ordre est donné aux troupes de se replier. Alors, après la débâcle du Mans, on a déjà à peu près 50 000 hommes qui vont déserter. Ce qui est quand même énorme. C'est quasiment la moitié des troupes qui va déserter. Ensuite, donc, une partie des troupes a pour ordre de se diriger vers Sillé. Une partie des troupes a pour ordre de se diriger vers Alençon, non pas pour organiser une contre-attaque, mais l'objectif, c'est d'essayer de gagner un maximum de temps, de ralentir l'avancée des Prussiens pour qu'un maximum de soldats, du moins pour ce qui va concerner Sillé, puissent rejoindre Laval, puis la Bretagne, où on a encore des hommes, où on a encore du matériel, des canons et les fameux fusils qui n'avaient pas été donnés par par Gambetta, pour essayer de réorganiser une armée et refaire une contre-attaque pour essayer de repousser l'ennemi. Enfin, avec le recul, tout ça est quand même très utopique. Mais en tout cas, c'était l'idée de Chanzy. Et donc, une partie des troupes, donc ceux qui sont sur Pontlieu vont aller direction Sillé, ceux qui sont sur le secteur d'Auvour vont rejoindre pour partie Alençon et une partie Sillé via Beaumont. C'est au niveau de Beaumont que la bifurcation va se faire pour certains soldats, donc ils prendront l'axe Beaumont, Pezel-Robert, Saint-Rémy-de-Sillé. Et d'ailleurs, on a des écrits de l'époque, donc on est dans un hiver climatique qui n'a rien à voir avec le temps que nous avons aujourd'hui. Il fait à peu près moins 10 ou moins 15 degrés, il y a 50 à 60 centimètres de neige. Les hommes, donc comme je disais, sont défaits, donc le moral dans les chaussettes. L'objectif, c'est de partir le plus vite possible. Le matériel est parfois abandonné. Les chevaux, parce qu'on n'a pas de voiture à cette époque-là, tout se fait à cheval. Les chevaux s'enlisent jusqu'au niveau du ventre, donc des fois, on est obligé de tout laisser sur place. Et on a même des soldats qui arrivent à Saint-Rémy-de-Sillé presque nus. En plus, ils ont froid. Ils essaient de trouver tout ce qu'ils peuvent pour se réchauffer. On a même eu peur qu'à un moment donné, ça mette le feu à tout le village. Enfin voilà, c'était vraiment compliqué, cette retraite entre Le Mans et Sillé. En plus à ça, on ajoute le fait que les Prussiens, eux, continuent d'avancer et pour désorganiser les troupes, continuent de pilonner et de tirer pour essayer de faire en sorte que les soldats se perdent. Donc la retraite sur Sillé n'est pas simple et n'est pas très bien organisée. Une fois arrivé sur Sillé, par contre, là, on a effectivement donc le général Chanzy et le général Jaurès qui vont organiser une ligne de résistance. Ligne de résistance qui va partir de Saint-Rémy-de-Sillé. Donc en gros, c'est la route actuelle Saint-Rémy-de-Sillé-Rouet, où donc une ligne sera organisée de part et d'autre de la grande route Sillé-Conlie, donc dans des lieux-dits qui existent toujours aujourd'hui, la ferme de Villiers, la Philippière, la butte des Essarts pour installer de l'artillerie. Donc voilà, cette ligne de défense est installée là, non pas pour organiser une contre-attaque, mais pour essayer, c'est ce que je disais tout à l'heure, de gagner un maximum de temps pour que les troupes continuent un repli plus calme.
Donc sur ces lieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a des espèces de casemates qui s'organisent sur des fermes. Il y a une ligne de front régulière. On est dans donc du combat en ligne ou est-ce qu'on est dans du combat, on va dire, d'escarmouche?
Alors, ces fermes qui sont choisies sont pas hasard. C'est des très grosses fermes pour l'époque, avec des cours fermées, des bâtiments qui ont des petites meurtrières qui permettent de placer des fusils. Donc dans chaque ferme, faut bien penser qu'on a à peu près entre 200 et 300 hommes. Ce qui est quand même assez conséquent. De l'autre côté, donc les Prussiens, eux, ont pris Conlie. Donc la gare de Conlie devient prussienne. Et donc ils vont lancer l'attaque sur la ligne française. Alors la ligne française, donc on est toujours sur l'armée de la Loire. Elles sont composées de mobilisés sartois, des mobilisés bretons. On retrouve aussi des soldats qui viennent du Gers. On a des gens qui viennent de l'Aube. On a des Vendéens. Et on a aussi des Zouaves. On a un petit peu d'armée coloniale. Et donc les combats vont avoir lieu pour grande partie sur la commune de Crissé. Parce que le bourg de Crissé, du coup, se retrouve coincé entre la ligne de front française et les Prussiens, et notamment autour de la voie ferrée. Pourquoi ? Pour ceux qui connaissent bien ce lieu-là, quand vous quittez Conlie direction Sillé, vous avez à droite la route de Crissé, et à partir de cet endroit-là, la voie ferrée fait une espèce de boucle pour rejoindre le bourg de Crissé, mais elle est surtout en surélévation, et donc pour les Prussiens, elle constitue un talus. Et donc les Prussiens se cachent derrière la ligne de chemin de fer pour tirer à tout va. Tant et si bien que côté français, il y aura d'abord de la mitrailleuse qui fera son office, l'artillerie présente aux Essarts tirera sur les Prussiens, mais à un moment donné, l'ordre de charger à la baïonnette sera donné.
Et donc, de quel côté, français ou prussien?
Français. Et donc la charge des Français va repousser les Prussiens au niveau de Crissé. Donc la petite gare de Crissé sera reprise. Ensuite, les combats auront lieu sur le secteur de Touchgan. Là encore, les Prussiens seront poussés jusqu'à Fort-à-Port, jusqu'au point du jour. Donc là, de ce côté-là, tout se passe bien côté Crissé. Par contre, de l'autre côté de la route du Mans, et notamment sur le secteur de la ferme de Lallaire, qui était occupée par les Français en début de journée, là, les Prussiens vont reprendre la ferme, mais en fin de journée, l'armée française réussira à repousser les Prussiens. Donc finalement, le 15, c'est une victoire française.
surcrissé, en fait.
Surcrissé.
Sur une échelle très modeste.
Sur une échelle très modeste, c'est une victoire. Mais ceci dit, cette victoire, elle est précieuse parce qu'elle a permis de gagner encore du temps pour permettre aux troupes de continuer à se replier vers le département de la Mayenne et vers Laval.
Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus les dizaines de milliers de soldats qui étaient sur le camp de Conly, puisque quand on connaît bien les lieux entre Conly et Ciel-Guillaume, si la ligne elle est entre, on va dire, Saint-Rémy-de-Sillé et Rouet, ça veut dire que les Prussiens occupent Conly et donc le camp. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce camp? Et quand ils arrivent, il y a du monde ou pas?
Il n'y a plus rien. De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le camp, c'était que des tentes. Donc, quand ils arrivent, il existe absolument rien. Hormis le site qui avait été créé à l'époque en novembre, ce qu'on appelle le site de la Redoute, où là, on pouvait installer de l'artillerie, mais le camp lui-même, il n'y a plus rien. C'est juste des tentes. Donc, il est pas très compliqué à prendre.
Alors on a des points de défense sur des fermes. Bon, l'état-major, il est où? Il est à Ciel-Guillaume, c'est ça?
Alors effectivement, c'est là où Sillé commence à intervenir. C'est que le général Chanzy donc installe son quartier général à Ciel-Guillaume, donc dans la maison qui appartenait à l'époque à Monsieur Bachelier, qui est l'actuel hôtel de ville. Parce qu'en 1870, l'hôtel de ville à Sillé n'est pas là, il est au château. Et donc, dans les cartes postales de Bénardot, on a une anecdote où effectivement le général Chanzy du haut du donjon de Sillé aurait observé au loin les combats. Voyant le donjon, voyant le lieu des combats, j'ai des doutes aussi sur la portée de la vue, parce que du donjon, on ne voit pas ni Crissé, ni le secteur de Touchgan. Peu importe, tout ça a été enjolivé par Bénardot dans les années 1900, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, Chanzy serait allé au sommet du château pour regarder les combats. Et autre anecdote aussi, c'est que comme le Mans était tombé, le préfet a également suivi Chanzy. Et donc pendant quelques jours, les services administratifs de la préfecture seront présents à Sillé.
Ce sera très court. Hein,
Sillé préfecture, c'est ça?
Sillé préfecture, mais voilà, quelques jours, préfecture non officielle en fait. Mais en tout cas, voilà, le préfet sera installé à Sillé.
Alors ce camp, donc, il y a plus personne, il n'y a pas d'infrastructure, donc les Prussiens peuvent même pas utiliser quoi que ce soit. Et donc... Si on fait le point sur aujourd'hui, il n'en reste strictement rien. C'est une question qu'on va aborder aussi plus en détail dans quelques instants. Il n'en reste plus rien. C'est-à-dire qu'on ne voit, parce qu'il n'y a rien de construit. Il reste même pas, je sais pas, des traces de gamelles, de cuillères, ou que sais-je encore. Enfin, voilà.
Peut-être que le sous-sol a encore quelques richesses à découvrir. J'en appelle pas au pillage archéologique quand même, mais il reste sûrement des choses, parce que quand vous avez 30 000 hommes sur un lieu, dans de la boue, ce lieu-là n'a jamais été fouillé, je pense, donc il reste peut-être quelques traces de l'occupation de 1870. Par contre, ce qui va rester de manière physique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on a au niveau de la butte de la Jaunelière. Donc notamment quand on vient de Sillé direction Conly, quand on est au sommet de côte sur la partie droite, là on a un petit chemin qui part, là on voit encore assez bien les talus qui ont été aménagés à l'époque, même s'ils sont aujourd'hui recouverts par la végétation et bordés d'arbres, on voit bien qu'il y a eu quelque chose d'aménagé sur cette butte de pas très naturel. Donc c'est la seule trace aujourd'hui physique du camp, c'est ce bout de talus là sur la butte de la Jaunelière.
Est-ce qu'on peut dire que le 16 janvier, la plupart des Bretons ont quitté la zone?
Alors, le 16 janvier, d'abord, les Prussiens sont à Sillé. Puisque le 15, c'est une victoire, on pourrait se dire que Chanzy a envie de rester pour essayer d'en remettre une couche. Non, pas du tout. On est vraiment sur du gain de temps. Donc, le 16, c'est les Prussiens qui rentrent dans Sillé. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme soldats sur Sillé? On aura simplement les soldats qui seront restés dans ce qu'on appelle les ambulances. Donc, c'est-à-dire, c'est les hôpitaux locaux. Donc l'hôpital local qui était piloté par le docteur Touchard, qui a été lui par contre qui s'est comporté vraiment en héros hein, sur Sillé, notamment s'opposant même au transfert des blessés français au Mans, évoquant la convention de Genève en disant que c'était pas normal de déplacer des hommes dans cet état-là. Donc voilà, les seuls soldats qui vont rester sur Sillé, c'est plusieurs centaines quand même, hein, qui seront soignés dans l'hôpital local, avec l'aide des sœurs de l'hôpital qui était juste à côté en fait. Hein. Il y aura donc quelques Bretons présents là, mais sinon les Bretons, comme le reste de l'armée, suivent le mouvement pour retourner vers la Bretagne.
On évoquera les traces qui restent aujourd'hui, les différents monuments, la personnalité aussi de Léon Bénardeau, parce que bah, justement ça nous va nous fournir des documents intéressants à analyser aujourd'hui. Mais avant, une espèce de synthèse sur ce qu'était le camp de Conly, je vous propose d'écouter la chanson qui a été créée par François Dudet et qui s'appelle « Le camp de Conly ».
Notre camp de Conly est le plus beau des camps, où jamais la patrie ait couché ses enfants. Nous y dormons très bien, car sans plaisanterie, nous avons le frima pour drap, et pour tout matelas, verglas, sur la lande fleurie. Mais qu'importe la boue à nos grands généraux, Kératri fait la roue et nous dit des héros. Certes, il faut aux Bretons bien du patriotisme pour vivre dans ces creux brumeux, le ventre soucieux et creux. Voilà notre héroïsme. Comme la viande est chère en ces champs dénudés, le jeûne et la prière nous sont recommandés. Mais de ces actes saints, on se lasse bien vite, traînant force canon très long, camelles et fourgons bidons, sans rien dans la marmite. Sergents et capitaines de nous sont satisfaits, grâce à quelques centaines de manches à balai. Ce sont là nos engins, nos machines de guerre, et vraiment nous trouvons Bretons ces nouveaux mousquetons très bons pour ce qu'il faut en faire. Glébisoin qu'on renomme pour un guerrier parfait, nous dit un jour en somme, Breton, qu'avez-vous fait? Nous n'avons point de honte, car sans fainéantise, nous avons tous changé, madoué, trois fois de généraux, quatre fois de chemise. Enfin le glas suprême teinte sur notre camp. Goujot en prend la crème pour marcher en avant. Le reste déconfie de sa longue campagne, bien loin de Kératri meurtri, fourbu variolé gelé. S'en retourne en Bretagne.
Alors nous sommes ici dans une chanson qui date aussi des années 70. Il n'y a pas eu énormément finalement de chansons sur le camp de Conly. Anne Triskel a également fait une chanson sur le camp de Conly, assez intéressante, hein, que vous pourrez retrouver aussi sur YouTube par exemple. Mais là, on n'est pas du tout à YouTube, là on est au début de la carte postale. Bon, Léon Bénardeau, alors il y a le vieux débat, est-il l'inventeur de la carte postale ou pas? Bon, nous, comme on est si hein, on va dire que oui. On va dire oui, mais quoique.
Alors, oui, c'est l'inventeur de la carte postale illustrée. Mais il faut rajouter deux mots derrière, en France. Parce que la carte postale illustrée existait dans d'autres pays, et notamment en Allemagne avant, enfin en Prusse. Donc oui, c'est pour ce qui concerne le pays. Pour
décidément, ils nous auront tout fait, les poussières.
Bah oui. Donc pour ce qui concerne effectivement la France, oui, Léon Bénardeau, c'est l'inventeur de la carte postale illustrée en France.
Et alors, justement, il y a des cartes postales de cette époque.
Oui, effectivement, il a sorti une carte postale, donc Quand qu'on lit, pour permettre justement aux Bretons de communiquer avec la famille. Il a en idée de découper un petit bout de couverture de livre. Et voilà, c'est comme ça que seront imprimées, seront données les premières cartes qui vont partir du camp vers les familles situées en Bretagne.
Alors, est-ce qu'on les retrouve facilement aujourd'hui, ces cartes postales? Est-ce qu'il y a des textes dessus, soit par l'imprimeur, soit par des soldats qui auraient écrit, d'ailleurs peut-être des fois en breton?
Alors, des cartes postales, on en trouve en vente sur différents sites internet. Il faut faire très attention. Oui. C'est très rarement la carte postale d'époque. C'est beaucoup de facsimilés. Pour trouver vraiment la carte postale originale, j'émets de très gros doutes. En tout cas, si quelqu'un a chez lui une carte postale d'origine de Bénardeau, la première, ça vaut une petite fortune. Parce que les facsimilés aujourd'hui, on les trouve quand même à plus d'une centaine d'euros. Donc,
quand même.
Voilà, parce que ça reste assez rare. D'ailleurs, il y en a eu deux. Il y en a eu une en 1870 et une deuxième en 1871 qui est ressortie, non pas là que sur le camp de Conly, mais plutôt sur l'armée.
Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces cartes postales?
On y voit, donc c'est marqué Camp de Conly, et on y voit aussi des symboles militaires avec des fusils. Le côté patriotique aussi ressort pas mal de ces cartes postales. Mais c'est du dessin. C'est du dessin, c'est pas de la photographie. On est sur un dessin que lui-même a créé.
Alors, je vois, mais là, c'est pas très radiophonique, je vois que vous avez ici une collection de cartes postales. Il y en a qui traitent de cette période.
Oui, en fait, Bénardeau, au début des années 1900, a ressorti toute une série de cartes postales sur les lieux c'est assez logique, mais sur les lieux où il y a eu des événements en 1871. Donc, on va retrouver la gare de Conly, le camp, le château de Sillé, le petit hameau de Crane, et puis on va retrouver effectivement la ferme de la Lère, par exemple, ou la tombe du soldat Gréau. Et donc, elles seront toutes enjolivées au niveau historique, notamment sur les victoires. Si vous voulez, je peux vous en lire une.
Alors justement, oui, il y a des textes. Alors on a la photo. Là, c'est une photo de ferme, et on a au-dessus un petit texte. Alors on va découvrir ce texte. Je ne sais pas si c'est un texte explicatif, historique, allégorique. Et écoutez ce que disait cette carte postale de Léon Bénardeau.
Donc c'est une carte postale qui représente la ferme de l'Alère. Donc le titre de la carte postale, c'est « Souvenir de la résistance en avant de Sillé, 15 janvier 1871 ». Et donc le descriptif, c'est « L'ennemi se présente à 10h, route de Conly, foncée de Coulonges. Il est reçu et repoussé vigoureusement par troupes du 21e corps, commandement du général de Villeneuve, sa fille, marin, mobile de la Vendée et du Gers. Notre artillerie est vers les Essarts, les mitrailleuses à l'Aunay. La ferme de l'Alère, centre de la résistance, est évacuée à 2h faute de munitions, mais par un retour offensif, est reprise à 5h par les marins qui s'y maintiennent jusqu'au lendemain matin. Les Prussiens, après perte sensible, se replient sur Conly. Cette héroïque résistance les avait retenus 24h. Le but était atteint.
Donc ce type de carte postale qui donne des éléments historiques, concrets. Il y en a beaucoup en circulation, on les trouve facilement. Alors là, on est plutôt dans des créations 1900. Donc
on arrive à en trouver quand même assez facilement, mais certaines sont très rares. Mais on peut encore en trouver.
Celle-ci par exemple.
Celle-ci, oui, je l'ai trouvée assez facilement. Celle qu'on trouve assez peu, celle qui coûte un petit peu plus de sous, on va dire, c'est la maisonnette, l'ancienne gare de Crissé. Mm-hmm. Voilà, celle-là, elle est un peu plus compliquée à trouver, mais globalement, on en trouve assez facilement.
Bon, alors, ce qui reste maintenant, c'est comme il n'y a pas de traces du camp de Conly, on a fait des monuments, et les monuments, on les a fait très tard. Il faut attendre 1913, c'est ça, pour avoir un monument?
Pour les Bretons, oui. 1913. Inauguration de deux monuments en grande pompe, hein, parce que là on a de la carte postale aussi qui avait été faite à l'époque. D'ailleurs avec les soldats du canton qui ont été décorés 40 ans plus tard. Et donc effectivement est inauguré le monument des Bretons, donc sur la route Conly-Sillé. Et là, le grand canal.
Donc il se trouve en haut de la côte, hein, de la Genolière, on peut pas le rater. Voilà. Sur la gauche quand on va de Conly à Sillé.
On peut pas le rater. faut faire attention quand on va aller le voir parce que c'est pas sécurisé du tout. Donc là, niveau aménagement, il y a peut-être des petites choses à faire. Et donc après, l'autre monument qui a été inauguré, c'est dans le cimetière de Conly, un grand calvaire qui rend hommage aux mobilisés bretons. Et il y a aussi un autre monument. Alors là, par contre, je connais pas la date de son inauguration. C'est au niveau du camp d'Auvour, où sur le monument, on rappelle que les mobilisés bretons ont combattu vaillamment.
Et alors, il y a une question qu'on n'a pas abordée encore. Il y a eu beaucoup de victimes dans... Alors, de deux sortes. Ma question porte sur ceux qui seraient morts lors des combats. Combien il y a eu de victimes dans les combats? Et puis aussi, vu les conditions de vie, il y a peut-être eu des soucis de maladie, etc. Malgré le rôle que vous avez mis en valeur tout à l'heure du docteur Touchard et des gens qui travaillaient avec lui.
Alors, à Sillé, il y a un monument dans le cimetière de Sillé, à côté du carré militaire, où effectivement, ce monument rend hommage aux ambulances de Sillé. On va retrouver donc la cinquantaine de soldats qui sont morts dans les ambulances de Sillé. Ce qui est quand même un petit exploit, parce que il y avait à peu près 400 blessés sur Sillé. Donc 400 blessés, 50 morts, c'est quand même assez remarquable pour l'époque. Ensuite, au niveau des morts, on sait qu'à peu près côté prussien, sur les combats de Crissé, c'est une quarantaine de Prussiens morts, qui ont été enterrés d'ailleurs à la butte de la Jonelière. Côté français, on est à une dizaine de victimes. Et on retrouve encore dans certains cimetières des tombes militaires. Il y a des tombes militaires à Conly, avec notamment une fosse commune pour les Bretons. Sur Rouet, on a également une tombe militaire, mais là, pareil, c'est sûrement une fosse commune parce qu'on ne sait pas si c'est des Français ou des Prussiens. Par contre, dans le cimetière de Saint-Rémy, on a deux tombes militaires, une prussienne et une avec des soldats français.
On en a une aussi, un peu isolée, près du château de l'hôpital, sur un terrain privé.
Alors ça, c'est la tombe du soldat Gréau. Alors c'est un mobilisé vendéen qui a été retrouvé là mort et qui a été enterré sur place. Alors, j'insiste bien sur le fait, pour les gens qui nous écoutent, c'est un terrain privé, donc il ne s'agit pas d'aller essayer de trouver la tombe du soldat Gréau au niveau du bois de l'hôpital. C'est privé, donc on n'a pas l'autorisation d'y aller. Ceux qui veulent voir à quoi il ressemble, vous pouvez rechercher sur Internet, il y a des photos qui traînent ici et là, et il y a même des cartes postales, de l'époque de Bernardo d'ailleurs, avec la tombe du soldat Gréau. On se demande un peu ce qu'il fait là, ce soldat, puisqu'il n'y a pas eu de combat du tout à cet endroit-là. Et donc, il y a deux choses. Soit il fait partie des soldats qui étaient un peu perdus au moment de la retraite et il serait mort sur place de fatigue, d'épuisement, de froid et de ses blessures, ce qui est fort probable. L'autre version, c'est plutôt que il a fait peut-être comme d'autres, c'est-à-dire qu'il a déserté puis il serait mort sur site. En tout cas, la thèse qui prévaut, c'est effectivement il était blessé puis s'est retrouvé à mourir sur site.
Mais on s'est très peu préoccupé finalement pendant plusieurs dizaines d'années de cette histoire.
On s'est pas occupé du tout de cette guerre-là parce que c'est une défaite. Et donc c'est plus facile de fêter le 11 novembre et le 8 mai que l'armistice de la guerre de 70-71.
Nous avons retrouvé dans les archives de l'INA des reportages qui avaient été faits alors à l'époque par Ménanjou Touraine, c'était en 1970. Il y avait eu un congrès des maires qui s'était tenu à Conly et on voit les images où les maires de la Sarthe se rendent devant le monument justement pour rendre hommage à ces soldats du camp de Conly. Et puis beaucoup plus détaillé, Roger Jiquel également dans la série En flânant qui avait consacré plusieurs minutes à ce camp de Conly. Où il explique justement ce qui se passait devant l'endroit où ce camp était installé. Et il existe également un documentaire long métrage fait par également les services de la télévision publique régionale. Donc voilà, on peut retrouver aussi tout cela. On a cité un certain nombre d'ouvrages. Donc peut-être plus lié à la guerre de 70-71 et au combat, le bouquin de Frédéric Beauchef, bien évidemment. Mais il y a aussi d'autres ouvrages. Sillé Patrimoine a fabriqué quelque chose là-dessus. Où va le faire?
Non, ça a été fait il y a 2 ans. On a sorti un cahier sur la guerre de 70, en même temps qu'on a sorti un cahier sur la guerre de 14-18. Pourquoi les combats ont été oubliés aussi sur Crissé? C'est parce qu'en Sarthe, on s'est beaucoup focalisé sur la bataille du Mans, pensant que ça y est, le Mans, il ne s'est plus rien passé après la bataille du Mans. Et voilà, moi, je reste persuadé qu'il y a des choses à faire de valorisation d'abord en termes de visite. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui font ça déjà depuis bien plus longtemps que nous. Mais moi, je reste persuadé qu'il y a quelque chose à faire sur l'aspect touristique, puisque on parlait de 1870-71 sur le secteur. L'histoire aussi est très riche sur la guerre 14-18. Il y a l'histoire du camp polonais. Il y a aussi l'occupation allemande, les bombardements. Il reste encore des choses à voir, notamment sur le secteur de Cocoplage. Donc, sur le tourisme de mémoire, sur le secteur de Conly et Sillé, il y a des choses à faire.
Eh bien, on va se quitter là-dessus, Vincent Lucas et Sillé Patrimoine, en rappelant que nous sommes sur un 150e anniversaire. Une information complémentaire, oui?
Oui, juste rappeler ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, le 16 janvier 1871, donc les Prussiens sont arrivés à Sillé. Mais il faut quand même indiquer qu'ils sont restés à Sillé.
Ah oui,
voilà.
Faut le dire, oui.
Oui, la ville a quand même été occupée. Et on sait que les Prussiens n'étaient pas des comiques en occupation. D'ailleurs, ils avaient l'humiliation comme petit loisir. Notamment, il y a une anecdote où un fusil chasse-pot a été retrouvé chez un Silléen pensant que c'était un résistant ou autre. En fait, pas du tout. C'est qu'il y avait tellement d'hommes sur Sillé que les fusils, il en restait un peu partout en ville et qu'il a échappé de justesse à passer au peloton d'exécution. Et donc, les Prussiens ont quitté Sillé à la fin du mois de janvier 1871, début février 1871. Et il est important de préciser aussi que quand l'armistice est proclamé, donc si j'ai bonne mémoire, ça doit être le 28 janvier 1871, les Prussiens vont pas quitter la France. Notre parti, le département de la Sarthe, sera occupé jusqu'en mai 1871. Puis Paris et l'est de la France au fur et à mesure, mais de manière très très progressive. Donc le pays, la partie nord de la France, sera occupée bien après l'armistice 1871.
Eh bien, ça nous amène directement à la musique qui va conclure cette émission. L'Alsace et la Lorraine partent. On a déjà là une bonne raison d'être en conflit avec les Allemands, et ça va amener plus ou moins un des éléments qui va amener la guerre de 14-18. Et on va terminer avec quelques moments de chansons de Marc Augeret sur cette période. Merci à vous, Vincent Lucas. Et voilà, intéressez-vous à l'histoire locale. Ça fait quand même quelque chose de très pimenté. Ça donne du sens à tous les lieux où on peut aller se promener, qu'on peut aller voir de ci, de là. L'histoire, c'est toujours quelque chose de très vivant. Merci de votre attention. Allez, on se retrouvera peut-être à un autre moment pour parler de notre histoire locale. Au revoir.
Toute songeuse, au bord de la fenêtre, Marguerite rêvait à son bel amoureux, qui n'ayant pas voulu de l'allemand pour maître, était allé servir le drapeau des aïeux. C'est en vain que cherchant à faire sa conquête, un officier prussien passait en soupirant, elle l'apercevant et détournant la tête, répondait dédaigneuse à ce bel Allemand. Suis ton chemin, fils d'Allemagne, va-t'en chercher une compagne au pays où Bismarck est roi, toujours fidèle à l'espérance. Je ne veux qu'un soldat de France. Prussien, Prussien, mon cœur n'est pas pour toi. Un jour, c'était hélas la fête du village. Elle apprit que son frère allait être pendu. Il avait d'un crachat marqué le beau visage de l'officier prussien, de fureur éperdu. L'Allemand exigeait, pour épargner le frère, de voir à ses désirs enfin céder la sœur. Et la sœur s'inclina, mais sa voix toujours fier, averti de ses mots, l'orgueil de son vainqueur. Épouse-moi, fils d'Allemagne. Mais si je deviens ta compagne, ne compte jamais sur ma foi. Toujours fidèle à l'espérance, j'aime mon beau soldat de France. Prussien, Prussien, mon cœur n'est pas pour toi. Bientôt on l'amena toute pâle à l'église, blanche plus blanche encore que son long voile blanc. Soudain elle sentit, oh cruelle surprise, se fixer sur ses yeux un regard suppliant. À l'ombre d'un pilier, sombre baissant la tête, c'était son fiancé, venu pour la revoir, et se tournant vers lui, troublant toute la fête, Marguerite poussa ce cri de désespoir. Oui, j'épouse un fils d'Allemagne, mais en devenant sa compagne, je ne lui donne pas ma foi. Toujours fidèle à l'espérance, j'aime mon beau soldat de France. Prussien, Prussien, mon cœur n'est pas pour toi. Le soir, lorsque l'époux, les yeux brillants de flamme, pénétra dans la chambre où l'appelait l'amour, il recula d'effroi, car c'était par un drame que Marguerite avait terminé ce beau jour. Sur le lit nuptial, dans sa robe sanglante, elle était étendue, un poignard dans le cœur, son âme s'envolait, mais de sa voix mourante, elle put dire encore à l'infâme vainqueur. Et maintenant, fils d'Allemagne, tu peux me prendre pour compagne, je n'aurai pas trahi ma foi. Toujours fidèle à l'espérance, je t'aime, ô mon soldat de France. Je meurs pour n'être qu'à toi.
Cette émission, dans le cadre du 150e anniversaire du camp de Conly, vous était proposée par votre radio locale, Fréquence 6.